כלפי נפה לוט, אין השלום בשלימות כלפי נפה dans sa plénitude. על כן, c'est pourquoi il est possible d'aber ou l'itfalel. Il est impossible de parler et de prier. Et vous voyez donc, il est impossible de faire surgir la parole, tout simplement. Ici, le Rav approfondit beaucoup plus ce que nous avons dit. Et j'entreprends de parler à Dieu dans la prière. Il est impossible que la parole soit une parole si je sors d'une expérience de machloket. Je mens, ma parole n'est pas parole. C'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas en paix, qu'on se parle, on ne se parle pas. On fait du bruit avec la bouche. C'est-à-dire, on dit beaucoup de mots pour justement ne pas parler. Et c'est les patspètes. Ça veut dire, parler beaucoup kaha, c'est précisément pour ne rien dire. Exactement comme dans l'expression, parlez-nous pour ne rien dire. Et on passe son temps à parler beaucoup, dafka pour ne rien dire. Pour cacher ce qu'on ne veut pas dire. Parce que lorsqu'il n'y a pas pacification, on a peur de l'autre. Alors, or, parler à quelqu'un, c'est se livrer, c'est lui donner le secret de soi-même. Et donc, on ne se parle pas, on fait du bruit avec la bouche, encore une fois, parce qu'il n'y a pas paix. Vous voyez que c'est toute la situation politique que nous vivons, mais elle est vécue de tous les jours, dans la relation sociale par excellence, qui est celle du Dibour empêché. Afshehu ish shalom, bien que l'un est homme de paix, alors si l'autre ne l'est pas, on ne peut pas. Et c'est très exactement ça ce blocage dont il est parlé ici. Me'achar she'em cholkeim alav. Et vous voyez pourquoi le Rav a choisi ici le mot de machloket, cholek, cholkim. Veze shamar David amelech alav shalom. Et c'est ce qu'a dit le roi David dans le psaume 120, que je voudrais vous lire en entier d'ailleurs, ce psaume 120. Ani shalom. Tu veux donner le tenu? Il dit, je suis la paix. Et voilà qu'est-ce qu'il veut dire. Ani shalom. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ki ani ish shalom. Je suis moi homme de paix. Ou mitzidi. Et haya shalom im kulam. Et de mon côté, il n'y aurait que la paix avec tous. Ve'in kolze. Et cependant, et là c'est la suite du verset. Et dès que je parle, et quand je parle, eux sont pour la guerre. Et ça veut dire que bien que moi je sois la paix, malgré cela, il est impossible de parler, mais à cause de la guerre, vers Mahloket et de la querelle, comme c'est dit plus haut. Alors je vais vous lire tout ce psaume. C'est assez extraordinaire comme il... c'est plus qu'une prophétie parce qu'il parle de notre situation avec Ismaïlia. Je vais vous dire, psaume 120. Là, c'est assez symbolique. Vous savez que j'aime pas beaucoup les symboles, mais c'est assez symbolique. Je dis pas beaucoup. c'est assez symbolique que cet endroit-là s'appelle Ismaïl. שיר המעלות אל השם בצרת עלי קראתי ויענן השם הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמייה מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה חיצי גיבור שנונים עום גחל הרתמים אוי עלי כי גחתי משך שכנתי עם ההולה כדר לאקספרסיון ההולה כדר איתם פלויה פרלטנח pour désigner précisément l'ensemble des peuples de la Ligue arabe. Comment dire le Rabat Shachnala Nafshi, Im Stone Shalom, Ani Shalom, Vechi Adaber, Hema Lamincham. Bien. Et dernier paragraphe. Veine, et voici. Kol ha-diburim hem shalom kanal. Toutes les paroles possibles, diburim, un peu dans le langage chassidique, pas de varim, mais diburim. Dans l'hébreu moderne, le mot de diburim est un peu péjoratif, mais pas dans ce langage-là. Kol ha-diburim vient de la paix. Ve'alken mishehu biprinat shalom. Et c'est la raison pour laquelle celui qui est, dont la manière d'être est une manière de paix, biprinat shalom, yachol leda. Il est capable, il peut connaître kol ha-diburim shel kol ha-olam, toutes les paroles qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que celui qui est capable de pacification intérieure dans son identité alors comprend les paroles. Vous savez que c'est la définition, pas seulement les paroles que disent les hommes, mais tous les dibourim, même les paroles des arbres, les paroles des animaux, les paroles du vent, c'est la définition de Chochmat Shlomo, de la sagesse du roi Salomon. Il était capable d'entendre les voix du monde, de les comprendre, parce qu'il était paix. Shalom, Shlomo, c'est Shalom. Kemo Shekatuv, et ça c'est dans Amos, chapitre 4, où Magid la Adam ma Siché. Je vous mets ce verset au tableau. Où Magid la Adam ma Siché. Masecho d'ailleurs et il explique à l'homme, Magid, il raconte, il explique à l'homme, Masecho, ce qu'est son murmure. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il parle. Et le Rav signale qu'il y a ici, il y a d'ailleurs ici une relation entre ce verset et précisément le premier verset de la du Shmoné Esré, Adonai Ispatai Kiftar Ufiyagid Tehilatecha. Il dit en tout cas, pour Magid l'Adam Masicho, c'est que les Rachetevot font apparaître le mot de Shalom. Rav, Lamed, Mem et Shin. Magid l'Adam Masicho. Il ne peut y avoir vraiment communication, se comprendre, Magid l'Adam Masicho, que s'il y a Shalom. Voilà donc le texte que très brièvement je voulais vous rappeler. Il y en a d'autres d'ailleurs dans son enseignement, de la relation entre la possibilité de la parole et d'autre part la machloquette. Bien. Alors écoutez, voici quelle référence nous allons étudier aujourd'hui. C'est le problème de la relation entre la prière et les sacrifices, très rapidement. Et je vous donne une référence que vous n'avez pas dans vos textes, mais enfin, prenez quand même la référence elle-même. De telle sorte de pouvoir aborder le deuxième sujet, la deuxième notion. Hier, nous avons surtout parlé de l'entreprise de la prière comme droit à la prière. Et là, nous allons aborder une deuxième notion, que ce droit à la prière va être institué comme devoir de prière. Nous allons passer d'une expression que j'ai forgée moi-même, mais pour rendre un peu évident, de la notion de tefila, le droit que j'ai. Ce droit qu'on a déjà découvert hier comme exorbitant et périlleux, et le droit que j'ai de prendre l'initiative de demander à Dieu de changer mon statut, et on comprend très bien que dans tous les cas, l'objet de la demande dans la prière, c'est de demander un miracle. Le monde fonctionne sous la direction d'une providence qui est le Créateur lui-même, et je demande que quelque chose change. Nous savons que rien ne change dans le contenu, mais dans le temps. Je demande qu'on me donne plus vite ce qui pourrait arriver, ce qui est d'ailleurs un peu, grosso modo, une des dimensions importantes de la définition du miracle. C'est le fait que le stade ultime d'un processus qui pourrait prendre énormément de temps vienne rapidement. Je pense que c'est clair. Vous voyez comment l'objectif de la prière et la définition même du miracle se rejoignent. D'une certaine manière, prier, c'est demander un miracle. Et c'est quoi un miracle ? Qu'un petit peu du monde à venir vienne plus vite dans ce monde-ci. Ou inversement, que ce monde-ci se dirige plus vite sur ce point qui me concerne dans son identité de monde à venir. Nous avons vu le caractère. Et alors, qu'est-ce qui me donne le droit de cela? Et la question ne peut être comprise. Quel est le fondement de la tefila? Qu'est-ce qui me donne le droit de prier, d'entreprendre cette interpellation exorbitante dans la mesure où on découvre qu'effectivement il y a là un chidouche, et c'est un chidouche qui apparaît avec l'histoire d'Israël. Selon la tradition, le premier homme, et vous pourrez éplucher tous les textes à la lettre, à la loupe, depuis le premier homme jusqu'à Abraham, le premier homme qui va prier, c'est Abraham. Rehu itpalel ba'adech. C'est-à-dire, il y a toute une première histoire du monde où l'homme définit ainsi son expérience religieuse. C'est l'expérience du consentement à l'ordre des choses. Vous avez là, si vous voulez, une ligne du sentiment religieux que l'on retrouvera en fin de compte un peu dans l'expérience philosophique des stoïciens. Que la vertu, c'est consentir à l'ordre des choses, qui est le contraire de la prière. La prière consiste à entreprendre de demander un bouleversement de l'ordre des choses. Il y a donc une première mentalité religieuse que j'appellerais païenne, dans le sens étymologique neutre, sans qu'il y ait de jugement de valeur, que la piété, c'est de consentir à l'ordre des choses. Et que par conséquent, la prière, comme telle, apparaît comme un blasphème. Et il y a un chidouche quand l'hébreu commence à prier, c'est-à-dire à interpeller cet ordre des choses qui vient du Créateur. Est-ce que vous sentez bien le conflit qu'il y a entre ces deux expériences religieuses radicalement différentes? La première étant le consentement à l'ordre des choses, et donc une telle religiosité est exclusive de prière. Et puis voilà qu'apparaît ce chidouche. Je vais demander le miracle, c'est-à-dire le chidou dama alaha, le bouleversement de l'ordre des choses. C'est parce que une exigence supplémentaire est apparue. Et une minute, je voudrais terminer la phrase. Et tant que je suis dans cette expérience de religiosité, que la vertu, c'est le consentement à l'ordre des choses, et là nous sommes dans la définition même de la religion naturelle, païenne dans le sens étymologique, alors l'éventualité de la prière apparaîtra pour un tel piétisme, une telle religiosité comme blasphématoire. Et lorsque le païen prie, eh bien, ce n'est pas la même chose que lorsque l'hébreu demande à Dieu de changer sa volonté, entre guillemets. Nous allons apprendre tout à l'heure qu'en réalité, il demande que sa volonté ultime s'accomplisse maintenant déjà. Hein? C'est la formule importante de « Yehi ratzon milefanecha ». C'est-à-dire là, que ce soit une volonté de devant toi. Et que la volonté se fasse être. « Yehi ratzon advienne ». Et la... vous me rappelez ce que je disais juste avant?
Yehi ratzon, c'est...
Non, juste avant. C'est l'opposition entre ces deux formes de religiosité. Mais enfin, j'étais gêné. Oui, j'entends pas. Plus fort. Oui, ça va dans ce sens. Oui, oui, c'est exact. C'est-à-dire que, oui, j'étais extrêmement frappé par cette laïcisation de la conscience religieuse mythologique dans, en particulier, la conscience stoïcienne. Que la vertu, et cela procède du stade précédent de la sagesse grecque, c'est-à-dire que la vertu est dans le consentement à l'ordre des choses. Et ce qui fait que, si nous imputons la conduite de prière aux païens, elle a un tout autre sens. C'est de prendre acte que ce qui se fait est bien. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de vertu dans un tel comportement. Mais c'est tout à fait autre chose que l'entreprise hébraïque de demander au Créateur qu'un projet qui est le sien se réalise plus vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... l'interpellation de changement dans la volonté n'est pas dans le contenu, il est dans le moment. Et voilà la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est ceci. Et la question de la prière, c'est pas que ma volonté se fasse, mais elle est que ta volonté se fasse, et pourquoi elle ne se fait pas.
Ken. Quand la forme même de la hiérarchie, par exemple, avant la consommation des produits, est-ce qu'il n'y a pas une reconnaissance intellectuelle et affective qui serait de l'ordre du consentement?
Alors écoutez, là, d'abord vous parlez d'un tout autre rite qui n'est pas la prière. Je pense que c'est clair, vous l'avez en tête d'ailleurs. Mais là, votre raisonnement s'est conduit en français, alors je vais un peu l'hébraïser. Il y a là un rite de remerciement, d'action de grâce, disons, dans le sens du remerciement, lorsqu'il s'agit de la bracha qu'on dit après l'utilisation. Mais la bracha qu'on dit avant est un rite de désacralisation, qui est tout à fait autre chose. Et, c'est-à-dire, je prends acte que cet objet, cette chose, cette jouissance de laquelle je veux jouir, je prends acte qu'elle est dans le monde comme bénédiction à ma disposition, et alors je peux l'utiliser. Tant que je n'ai pas reconnu qu'elle est donnée en plus que l'être du monde, alors elle est hekdesh, elle est tabou, interdit. Hekdesh. Comment vous traduisez en français? Hekdesh. tabou, okay, intouchable. Et ce n'est que lorsque je l'ai identifié comme bracha, quelque chose d'un plus-être qu'il y a en plus dans le monde, alors que j'ai le droit de l'utiliser. Et je voudrais, puisque la question a été posée, c'est quand même important, donc c'est un tout autre rite, le définir un peu plus. Vous avez dans le 9e chapitre de la Gemara de Brachot, trois enseignements à ce sujet, je vais en isoler un. C'est-à-dire, celui qui est mehané, celui qui jouit de quelque chose du monde, avant de dire la bracha qui va enlever le sacré, le sacré dans le sens de l'Ekdesh, c'est-à-dire de l'interdit, plus exactement, sera considéré comme portant atteinte aux choses consacrées. C'est-à-dire, le monde entier, en tant que créé, est à Dieu, il est de Dieu, il est kadosh, pour moi. Je n'ai le droit d'utiliser que si je diagnostique que c'est une bracha que le Créateur, dans un surplus d'être, me donne. Alors, cela désacralise, ça enlève le hekdesh, et ça me permet l'utilisation. C'est très exactement le contraire de la mentalité de la culture ambiante, enfin de la liturgie chrétienne, qui est au contraire la sacralisation pour que je puisse l'utiliser. Je vais dire ça un peu en termes élémentaires, vous allez tout de suite comprendre. Et prenons la bracha de la motzi. Et la bracha de la motzi, amotzi lechem min haaretz, ce qui me donne le droit de manger le pain. J'entends souvent des juifs dire en français, donne-moi un peu de pain béni. On a béni le pain, alors il a changé de nature. C'est tout à fait autre chose. Vous voyez, dans la mentalité païenne, la formule de bénédiction met du sacré dans la nourriture, et alors elle devient une nourriture sacrée et sainte, le pain béni. Dans la mentalité païenne, donc, qui a basculé aussi dans l'univers de la liturgie chrétienne, toute la liturgie de la messe, l'Eucharistie. Okay, on va mettre du sacré par une formule magique. On va mettre du sacré dans ce qu'est du pain. Et alors que le comportement liturgique juif est exactement opposé. La nourriture, comme telle, fait partie du monde de Dieu. Ça m'est interdit à l'incorporer à moi. À moins que j'enlève ce sacré. Mais c'est abstrait. C'est-à-dire, j'enlève cet interdit. C'est une catégorie juridique et non pas du tout magique. J'enlève cet interdit en le reconnaissant comme bracha. Alors j'ai le droit d'utiliser. Quelle est la formule ? Baruch ata Hashem. Cet objet, je le reconnais de toi, non pas comme créature du Créateur. Ça ne m'appartient pas. Ça, c'est Hekdesh. C'est ton monde. Mais je le reconnais comme bénédiction donnée par la source des bénédictions. Tu m'as fait un cadeau. C'est comme cela que je le diagnostique, que je l'identifie. Alors je peux. C'est clair ? Vous voyez à quel point la mentalité ici est radicalement différente. Vous avez d'ailleurs la même règle pour le mariage. La raison pour laquelle il y a d'abord le Hekdesh, les Kiddushin, et ensuite le Shevar Brachot qui permet la Messira la Chuppa. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas le Shevar Brachot, qu'on a diagnostiqué que la femme est la bénédiction, alors elle est interdite. Et ce n'est que la Chuppa qui permet le mariage. Vous comprenez quel est le processus? C'est toute la dialectique entre Kedusha et Vra. Ok?
Dans le premier esprit, quel est le rapport entre les demandes et les formules de Brachot?
C'est très simple. Je reprends l'analyse de tout à l'heure. Qu'est-ce que j'entreprends dans le Shmoné Esrei? J'entreprends de demander les Brachot, les bénédictions, hors desquelles, en tant que fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ma vie n'a pas de sens. La première Bracha que je demande, c'est la connaissance. Et le fait que j'obtienne la connaissance entraîne toutes les autres. Je le décrirai de la manière suivante. Si l'homme était capable de rester comme avant Abraham, être de nature, consentement à la vie naturelle, il n'aurait pas besoin de prier, il n'aurait pas besoin de demander. Et ça, c'est la piété naturelle. Ce que Dieu fait est bien en tant que créateur. Voilà qu'Abraham apparaît avec une exigence d'être supplémentaire. Parce qu'il a une mission, entre guillemets, il a une destination pour laquelle il a besoin d'une aide particulière. C'est la différence entre, si vous voulez, l'homme en dehors d'Abraham, qui est un être de nature, une parmi les espèces vivantes, roseaux, pensants, etc. Enfin, tout ce que les goïms disent d'eux-mêmes. Ils disent, nous sommes comme des êtres de nature dans la nature. Il y a une rupture avec cette manière de se connaître comme homme, chez ce premier goï qui est devenu juif, c'est-à-dire Abraham, et qui a compris que l'homme n'est pas un être de nature, je veux dire qu'il y a en lui une exigence d'un plus-être que l'être de nature, d'où le droit à la demande. Au nom de cette visée de ce projet du plus-être qui est mon identité d'hébreu, j'ai besoin des brachot correspondantes. Alors je les demande. C'est-à-dire, seul, nous avons vu cela hier, je pense, seul celui qui expérimente un manque peut avoir le droit de demander le bien qui va combler ce manque. Et donc, l'entreprise de la conduite religieuse de la prière, c'est déjà la mise en évidence d'une exigence d'être au-delà de l'être de nature. Alors, j'ai le droit de demander, parce que ce dont j'ai besoin pour ma destinée propre n'est pas dans la nature. Et ce que je demande, c'est un plus-être qui vient d'ailleurs que de l'être de nature. Par exemple, et je ne demande pas le pain, je demande la bracha du pain. Et ce n'est pas le pain béni, comme on l'a dit. Le pain, il faut que je le travaille. Mais ce que je demande, c'est que mon travail soit fécond et qu'il y ait fécondité, pria veribia, dans la récolte. Je ne demande pas que le pain pousse de terre. Il viendra un temps où nous mériterons cela, que les pains pousseront sur l'arbre à pain. Mais la Gemara fait allusion à cela pour les temps messianiques. Mais je ne demande pas le pain. Je demande que le pain, j'allais dire, soit béni, mais on ne peut plus dire en français, mais qu'il y ait de la bracha dans ce pain. C'est-à-dire que ce pain est un goût, parce que c'est le goût des choses qui est cette valeur supplémentaire qui donne un sens à la vie. Et sans le goût des choses, je suis un être de nature. C'est le taram qui est très important. C'est en particulier parmi les brachot, la birkat hashanim, que l'année soit bénie, ça veut dire qu'il y ait bracha dans la récolte. Top. Bien, alors nous allons fermer tout de suite cette parenthèse et voir directement. Oui, ah oui, vous avez une question. Plus fort. Plus fort. Mais parlez plus fort.
L'assimilation encore un truc que vous avez fait de la femme à l'objet de conservation est un petit peu choquant.
Quand est-ce que j'ai fait cette assimilation? Non, j'ai fait une assimilation avec une bénédiction.
Il y a.
Mais écoutez, il faut vous déchoquer. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez le texte que nous avons lu la semaine dernière, lorsque la femme de Potiphar, vous rappelez de ce verset? Lorsque la femme de Potiphar veut tenter Joseph, et que Joseph dit, comment tu me demandes une chose pareille, alors que mon maître, le mari de la femme de Potiphar, a tout laissé entre mes mains, sauf toi, en tant que tu es sa femme. Et quelle est l'expression qui est employée par le récit? Et voilà, mais quelle est l'expression qui est employée par le récit? Lechem. C'est-à-dire que il y a effectivement cela, et c'est d'ailleurs réciproque. Je vais essayer d'employer des termes que je n'ai pas préparés. Il y a une fin du sens de la vie et qui ne peut être comblée que par la nourriture homogène à cette fin. Et ce n'est pas par hasard qu'on parle de la fin sexuelle. Et lorsque, je poétise un peu si vous voulez, mais lorsque un mari hébreu dit un mot tendre à sa femme, eh bien s'il la compare à une chala, la chala du monde, c'est pas rien. Bon. Alors revenons en tout cas au problème. Nous allons voir.
Est-ce qu'on ne peut pas considérer le kaddish comme une exception à cette contradiction?
Mais le kaddish n'est pas une prière. Justement, le kaddish ne fait pas partie de la tfila, dans le sens strict. Le kaddish, c'est un rite de proclamation de sanctification. C'est un tout autre rite. Vous vous rappelez, hier, nous avons déjà parlé de cela, ce n'est pas n'importe quel rite oral qui est une prière. Alors, j'aborde tout de suite ceci, voilà. Et je voudrais quand même vous donner la référence exacte, mais d'abord je définis le sujet. C'est ceci. Et il y a eu tout un temps où on ne connaît comme produit de la tfila que la tfila première manière, que je vous ai appelée tfila tfila, le droit à la prière et qui surgit avec Abraham. Il y a exigence d'un plus-être qui fonde le droit à la demande de ce qui viendra satisfaire ce plus-être. Et puis, nous voyons que tout ce temps-là est parallèle avec le culte des sacrifices. Lorsque le temple a été détruit et que le culte des sacrifices a été rendu impossible, alors les prières ont été instituées sous forme de rituel qui va, comme tel, premièrement jouer le rôle du sacrifice et deuxièmement permettre, comme véhicule, l'expression de la demande. Je vais expliquer tous ces points maintenant en détail. Voilà quel est le sujet que je voudrais signaler ici. Dans l'histoire des religions, on dit de façon très schématique et très sommaire qu'il y a eu un temps où le culte, la piété, c'était le sacrifice. Puis qu'il y a eu une évolution des mœurs, une spiritualisation des mœurs, et ce n'est plus le sacrifice, c'est la prière. Il faut bien comprendre, nous allons nous baser sur une Gemara très précise, que ceci ne rend compte en rien du schéma de l'histoire de ce qui s'est passé dans la tradition d'Israël. Le rite des sacrifices et le rite de la prière n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le rite des sacrifices a dans tous les cas un sens d'expiation, de kapara, c'est-à-dire de restitution de l'intégrité morale. Et c'est son objet. Tandis que le rite de la prière est un rite de demande de quelque chose de plus. A priori, rien à voir. Tant que le temple existait et que le sacrifice était possible, alors nous avons tout ce long temps de la prière autonome, de la prière spontanée, du droit à la prière non légiférée, c'est-à-dire sans liturgie particulière. Simplement, cette capacité prophétique, cette capacité de prière qu'avaient les hommes de la capacité prophétique, de diagnostiquer le bien à recevoir pour satisfaire l'exigence de plus-être qui était la leur. Et cela a été possible dans la mesure où le rite de l'expiation des fautes restituait de façon permanente restituer l'intégrité morale. Je ferai un tout petit schéma au tableau pour essayer de vous montrer cela. Je suis perpétuellement à un stade X, mais voilà qu'à ce stade X, j'ai exigence d'un plus-être, disons X plus 1. Seulement, je n'ai le droit, et il va y avoir jugement, je n'ai le droit de demander ce plus-être si je suis à tout le moins à ce niveau, dans une intégrité définie. Mais si la faute m'a fait tomber plus bas, à x-1, alors il faut d'abord le rite du sacrifice qui réintègre l'intégrité, et là, la prière est possible. Nous retrouvons d'une autre manière le lien entre ces deux comportements. Lorsque le temple a été détruit, il y a eu inquiétude. La prière est impossible, parce que nous sommes tombés en deçà du droit à la demande. La kapara réintègre le droit à la demande, quel que soit les péripéties de la faute. Et par conséquent, lorsque le rite du sacrifice est impossible, la prière elle-même est impossible. Alors c'est la raison pour laquelle les hachamim, à la destruction du premier temple, ont institué un changement de nature de la tefila elle-même. Du droit à la demande, elle devient devoir de tefila, c'est-à-dire que les tefilot ont été instituées par rapport au korbanot, par rapport au sacrifice, et la liturgie de la tefila, la forme de la liturgie, va être un substitut de la fonction du sacrifice lui-même, du dedans de laquelle, comme véhicule, peut surgir le droit à la demande. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je veux dire que ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas du tout qu'il y a une soi-disant évolution spirituelle des mœurs qui spiritualise le comportement religieux. Ces deux comportements religieux sont parallèles et n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le chidouche qui est apparu dans l'histoire d'Israël, c'est qu'au moment où le temple est détruit et que le sacrifice devient impossible, c'est la prière elle-même qui va prendre la fonction sacrificielle, du dedans de laquelle la demande sera possible. Est-ce que c'est plus clair? Alors vous avez donc ces deux formules. Là, tu pourrais nous donner la référence. Tfilot avot tikkunum 26b. Tfilot avot tikkunum, les prières ont été instituées par les patriarches, et là dans le sens du droit à la demande. Deuxième formule, dans la même page, 26b, les brachot, tfilot keneged temidim tikkunum, les tfilot ont été instituées par rapport à la liturgie des sacrifices, du sacrifice perpétuel, de tamid, korban tamid, ça, c'est au moment de la destruction du temple. Est-ce que c'est bien clair? Nous avons, si vous voulez, deux situations La première, qui est la situation idéale. Le rite du sacrifice assure l'expiation. Et alors, parallèlement à cela, dans ce temps-là, il n'y a pas liturgie de la prière, mais droit à la prière. Chacun prie lorsqu'il y a exigence de prière. Parce que prier, c'est demander. Il y avait d'autre part d'autres rites oraux, le rite de la louange, les mahamadot, la tehila, tous ces autres rites, la kudusha, mais la tfila n'était pas ritualisée, tout simplement parce que le korban était là. À partir de la destruction du temple, alors bien évidemment, la forme du rite de la tfila a pour objet la fonction de la kapara, de la rédemption du sacrifice lui-même, du devant de laquelle la prière est possible. Alors voici la référence que je voulais étudier avec vous, si vous me donnez quelques minutes que je vous la trouve. Ça risque de me prendre trop de temps, parce que je n'ai pas la mémoire des référents, mais je vous donne la citation immédiatement. C'est tout simplement Gedolat Fila Mina Korbanot. La prière est plus grande que le sacrifice. Alors réfléchissons sur cette formule. Et nous avons dans cette formule les deux lectures possibles. La première qui est erronée, et que je viens de critiquer, littéralement ça signifie la prière, la Tfila, est plus grande que les sacrifices, mais pas du tout dans le sens que l'on a vu tout à l'heure et que j'ai essayé d'évacuer, c'est-à-dire qu'il y aurait évolution spirituelle et une grandeur spirituelle plus grande, si j'ose dire. Mais la deuxième lecture, qui est le pshat même de la Gemara, dit ceci, « Gedola tfila mina korbanot » parce que plus grande est la prière où il y a avec le sacrifice que le sacrifice sans la prière. Ça veut dire que le sacrifice réintègre ce niveau d'intégrité dont j'ai parlé et qui permet à la prière pouvoir être formulée. Le verset d'Isaïe qui est cité à ce propos le montre très clairement. C'est un verset du début de Isaïe. Je ne veux pas de vos sacrifices, et lorsque vous levez les mains au ciel, farsechem kapechem alaim enaim ikem, je cache mes yeux de vous, ve gam ki tarbu tefila eneni shomer. Et même lorsque vous multipliez la prière, je ne vous entends pas. Ça signifie que c'était le temps où il y avait les sacrifices, il y avait aussi la prière. Mais voyez là, donc là, la différence. Alors, nous abordons là, tout simplement, deux formules différentes. La tfila, qui est le droit à la demande, et la tfila mitzvah, qui devient ce rite, obligation de réaliser la fonction des sacrifices qui sont empêchés. D'une certaine manière, je dirais ceci, si vous voulez. Et le rituel des sacrifices est la liturgie propre à la loi de Moïse. La loi de Moïse est la religion de la morale, et la religion de l'obligation morale. Et par conséquent, étant donné la peccabilité de l'homme, le fait que dans l'histoire de l'homme, la faute est inévitable, tout ceci entre guillemets, elle n'est pas héréditaire, elle est, disons, inévitable. Par conséquent, la liturgie normale d'une telle religion de la loi, c'est l'expiation. Et c'est tout simplement par le fait que la cause profonde de toutes les fautes éventuelles est la recherche de ce que vous avez appelé le pain tout à l'heure, la recherche de l'aliment à la vie, c'est la raison pour laquelle c'est la nourriture qui est le véhicule du geste expiatoire. Dans le sens suivant, c'est que et je crois que nous en avons parlé une fois, mais je le répète très brièvement, c'est que toute faute vient qu'il y a nécessité de manger pour vivre. Et en prenant ce terme de manger pour vivre dans le sens le plus large, la conscience se nourrit de jouissance. Et qu'est-ce que c'est que la faute? C'est la péripétie du manquement à la loi morale dans cette recherche de la solution au problème économique pris dans son sens le plus général. Or, la Torah a prévu la disposition suivante. C'est que au moment des récoltes, une partie de la récolte est prélevée avant que la récolte ne soit commercialisée, c'est-à-dire dans les termes contemporains, n'entre dans le circuit économique. Dès que la récolte entre dans le circuit économique, le substrat de nourriture qu'elle représente est entaché de fautes. Je pense que c'est même pas la peine de l'analyser. Nous sommes à l'ère post-marxiste et l'analyse de la plus-value qu'ont fait les marxistes est très claire à ce sujet. Toute plus-value est grévée, handicapée d'exploitation, donc de faute. Je pense que c'est clair. Tous les produits de consommation sont produits de la faute. Parce que précisément, ils résultent du circuit économique. Et donc, il y avait une partie de la récolte qui était prélevée avant que la récolte ne soit commercialisée. Cette nourriture est appelée kadosh. Elle n'a pas été entachée de la faute. Et donc, il y a quelque part, à Jérusalem, une maison parfaite où un homme parfait, le grand prêtre, habillé des vêtements parfaits, va manger le repas parfait pour lequel il n'y a pas eu de faute. Et par conséquent, c'est la participation à ce repas parfait qui était le sacrifice quotidien qui déculpabilise des fautes entraînées par la nécessité du jeu de la vie. Donc, voilà pourquoi le rite du sacrifice, qui est le rite du repas parfait, de la consommation du repas parfait, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Kadosh dans ce sens-là, qui n'a pas été grévé de la faute, et qui assure la rédemption, d'où la prière est possible. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Je vais aller très vite dans cette analyse, mais je pense que nous pouvons avancer. Et alors là, apparaît.
Et de
monter
d'un degré
spiritualisé. Quel lien vous faites entre les deux parties de votre question ? Je n'ai pas très bien compris.
Je ne comprends pas que le fait de tuer un animal ait pour conséquence de monter d'un degré dans l'ordre.
Mais je ne crois pas que je me suis exprimé de cette manière. C'est-à-dire que vous êtes un peu sur un autre registre. C'est-à-dire que c'est ce que vous impliquez de ce que j'ai dit. Je reprends le problème. Nous sommes là un peu dans une discussion formelle analogue à celle de tout à l'heure. C'est-à-dire. Le fait de tuer un animal, comme vous dites, eh bien, ça se relie au fait de se nourrir pour vivre. C'est un premier point. Bon. Et je reprends en partie l'analyse de tout à l'heure. Tant que l'homme mange pour vivre, le rituel normal de la conscience morale dans la liturgie de l'expiation est en fonction d'une nourriture pour laquelle aucune faute n'a été faite. Et la seule question que vous pourriez poser, mais je ne l'aborderai pas, ça nous fera déborder du sujet, c'est est-ce qu'on ne peut pas manger, se nourrir, sans pour cela avoir à tuer un animal ? C'est-à-dire le végétarisme, si vous voulez. Mais là, votre question aurait une direction. Mais le problème n'est pas du tout qu'en tuant un animal, je vais m'élever en spiritualité. C'est pas cela. Le problème, c'est que dans la participation que j'ai avec un repas pour lequel il n'y a pas eu de faute, circuit économique, alors il y a déculpabilisation. De quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas des fautes intentionnelles. Une faute que j'ai voulu faire, sachant que c'est le mal, et que j'ai fait intentionnellement, aucun sacrifice n'expie cela. Le sacrifice dont il est question ici, c'est le sacrifice de la faute non volontaire. C'est-à-dire celle qui est entraînée par le jeu de la vie. Et d'où vient que le comportement de l'homme est entaché de faute inévitablement, il vient de cela. C'est que je suis créé de manière telle qu'il faut manger pour vivre. Là, le fait d'avoir tué un animal, ça dépend du menu du repas. Mais le problème du sacrifice qui déculpabilise la conscience des fautes non volontaires n'est pas du tout le fait de manger de la viande. C'est le fait de manger d'un repas non entaché par le circuit économique. Alors, la réponse que je vous donnerai est très simple. Et je ne veux pas traiter du problème du végétarisme. Tant que l'homme mange, le rituel normal de la religion de la loi est le culte du sacrifice. Et ça n'a rien à voir avec la prière. C'est ce que je voulais expliquer. La prière, c'est tout à fait autre chose. C'est une conduite tout à fait différente. Mais nous sommes tellement imprégnés de cette mentalité des historiens des religions dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont réduit deux rites qui avaient des fonctions complètement différentes, à quelque chose de très vague, le comportement religieux. Comprenez bien ceci, le rite du sacrifice est un rite d'expiation. Le rite de prière est un rite de demande. Il y a un ordre. Il faut d'abord rédemption de la faute pour que la demande soit possible. Voilà quel est l'ordre des propositions. Okay. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, le problème des différentes natures de sacrifice est un problème considérable pour lui-même. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, en fin de compte, dans n'importe quel sacrifice, même un korban toda, il y a un aspect d'expiation. Il y a un aspect de tikkun, de kapara. Alors la demande est est possible. Peut-être qu'il faudrait consacrer plus de temps à cette analyse, mais je la reprends avant de vous donner la parole, simplement deux phrases. La condition de l'homme est d'être donné au problème économique. Selon l'enseignement de la Torah, il faut d'abord découvrir ce fait-là. Nous ne nous bornons pas à exister. Il nous faut manger pour vivre. Et en introduisant dans cette formule tout ce qui est nourriture de la conscience. Si la conscience ne se nourrit pas de jouissance, elle disparaît. Il y a là un problème philosophique profond. Comment se fait-il que notre être dépend du fait de se nourrir? Et chacun d'entre nous est premièrement un tube digestif, si j'ose dire. Il y a une raison à cela. Ça pourrait faire l'objet d'un approfondissement pour lui-même. Il y a une raison à cela. C'est parce que notre être est donné au problème moral. Or, le problème moral est posé toujours à propos d'une situation économique, dans le sens large, c'est-à-dire masa umatan, c'est-à-dire donner-recevoir, c'est-à-dire relation d'altérité. Et nous sommes homo economicus parce que nous sommes premièrement moralicus. Parce que nous sommes donnés au problème moral, nous sommes donnés au problème économique. Comprenez bien une chose, tout ce dont la loi traite, ceci est bien, ceci est mal, renvoie toujours à une situation d'échange avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le problème économique est le véhicule du problème moral. Donc, pour être donné au problème moral, nous sommes donnés au problème économique, donc à une espèce de condition existentielle dramatique de risquer à chaque geste de vie de faire du mal à autrui. Et d'où cela vient? Cela vient de cela. C'est parce qu'il faut manger pour vivre. Donc, dans la participation à un repas pour lequel il n'y a pas eu de faute commise, il y a cette déculpabilisation qui est nécessaire pour que la prière deuxième rite soit...